France Inter.
Bonjour.
Bonjour à tous. À la une ce matin, le souvenir du génocide des Tutsis au Rwanda. Il y a 30 ans commençait la saison des machettes, près d'un million de morts en 100 jours. Nous serons à Kigali, reportage auprès de la jeune génération qui vit avec l'héritage du massacre. Dans l'actualité aujourd'hui, une autre date marquante, la guerre entre Israël et le Hamas entre dans son 7e mois. Toujours pas de trêve à l'horizon, portrait dans ce journal d'une Palestinienne qui a tout perdu. La réaction des professionnels de santé en France, après les mesures de Gabriel Attal pour garantir l'accès aux soins. Et puis un inédit de Jean Genet en librairie, miraculeusement retrouvé dans une bibliothèque de Harvard. Et enfin, on va rouler sur les pavés et courir sur le bitume Paris-Roubaix et le Marathon de Paris au programme du Journal des Sports d'Adèle Belloumri. Avant, votre invité à 8h20, Ali et Marion.
Il est biologiste, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle et s'attaque dans son nouveau livre aux idées reçues que nous avons tous sur la nature. Exemple, la nature est bien faite, la femme est faite pour l'homme. Marc-André Cellos sera avec nous en studio.
Nature et préjugés, vos questions, vos réactions, chers auditeurs, au 01 45 24 7000 ou sur l'appli Radio France.
France Inter.
Il y a 30 ans, au Rwanda commençaient les tueries qui allaient aboutir au dernier génocide du XXe siècle. 800 000 morts en 3 mois, principalement des Tutsis, dans ce petit pays de la région des Grands Lacs, massacrés à la machette, au fusil, au gourdin, par les milices du régime extrémiste Hutu, et aussi par de simples citoyens fanatisés par la propagande raciste. Depuis, le Rwanda a mené un long travail de réconciliation entre Hutu et Tutsi. D'ailleurs, plus personne dans le pays n'emploie désormais ces termes. Reportage avec la jeune génération à Kigali de Paul Lorgerie.
Né en 1994, Serge Gassassi n'a pas connu le génocide, ou en tout cas il ne s'en souvient pas. Donc pour lui, le conflit actuel n'est pas entre deux communautés, mais entre deux générations.
Génération d'avant 1994 et génération de maintenant. La génération d'aujourd'hui, nous nous entendons. Nous sommes en train de travailler ensemble pour que même nos parents soient unis.
Aujourd'hui encore, les survivants et familles des victimes doivent vivre au quotidien avec des voisins ayant potentiellement tué à l'appel du pouvoir de l'époque tenu par les Hutus. Donc pour l'artiste Oben Irgwa, 28 ans, les membres de la communauté Hutu doivent parfois s'effacer.
Je pense que les personnes qui viennent de cette famille font un peu de double travail pour être bienveillants, pour ne pas blesser de personnes.
La querelle entre ces deux communautés remontait à la colonisation belge et les violences étaient fréquentes. Et si la distinction a aujourd'hui légalement disparu, l'opposante politique Victoire Ingabire considère que le travail de réconciliation n'est pas encore terminé.
La rébellion à cette époque, qui est aujourd'hui au pouvoir, combattait pour accéder au pouvoir. Certains de leurs soldats ont commis des crimes contre l'humanité.
Quoi qu'il en soit, une large partie de la population rwandaise se recueillera ce dimanche pour le début des commémorations du génocide. Kigali, Paul Lorgerie, France Inter.
Et le pays commémore la tragédie avec 7 jours sans musique et une cérémonie aujourd'hui en présence de nombreux dirigeants étrangers. Depuis 30 ans, la France, soutien historique du régime Hutu, a fait un grand pas vers la normalisation des relations avec le Rwanda de Paul Kagame. Emmanuel Macron a reconnu que Paris aurait pu arrêter les massacres au printemps 94, mais n'en a pas eu la volonté. Le chef de l'État est représenté au Rwanda par le ministre des Affaires étrangères. Bonjour Nathanaël Charbonnier.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes à Kigali où Stéphane Séjourné est arrivé hier soir.
À peine descendu de l'avion, il a signé deux accords de coopération, dont l'un qui prévoit un renforcement de la liaison aérienne entre les deux pays. Mais le ministre n'est pas seul. On peut noter la présence d'Hervé Berville, secrétaire d'État à la mer, mais surtout franco-rwandais, orphelin, directement touché par le génocide et qui s'applique depuis toujours dans ses moments de mémoire. Et pour compléter la photo, on peut signaler la venue de l'ancien président Nicolas Sarkozy, présent à titre personnel, mais qui a été le premier à s'exprimer sur la responsabilité française en reconnaissant de graves erreurs d'appréciation de la France.
Des relations normalisées entre la France et le Rwanda, donc pourtant Emmanuel Macron n'a pas fait le voyage.
En effet, officiellement, le président français se devait d'être en Haute-Savoie pour rendre hommage aux résistants de la Seconde Guerre mondiale. Une obligation qui permet aussi d'être absent, expliquent certains, et surtout d'occulter le soutien contesté des Rwandais au mouvement de rébellion M23 qui est actif au Congo voisin. Conséquence, c'est avec une vidéo sur les réseaux sociaux que le président français a décidé lui aussi de rendre hommage aux victimes.
Merci Nathanaël Charbonnier depuis Kigali. À écouter ce matin à 9h10 dans Interception, le reportage de Béatrice Duguay, 30 ans après le génocide des Tutsis.
8h05 sur France Inter, au Proche-Orient, de nouvelles négociations pour tenter de trouver une trêve.
La guerre entre Israël et le Hamas entre aujourd'hui dans son 7e mois. Les négociateurs se retrouvent au Caire aujourd'hui pour une énième tentative d'arrêter les combats déclenchés après l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier. Attaque qui a fait 1170 victimes et toujours une centaine d'otages. Depuis, la riposte israélienne a causé la mort de 33 000 personnes à Gaza. Derrière ces chiffres, des vies brisées des deux côtés. Thibault Lefebvre, notre correspondant à Jérusalem, nous raconte ce matin la trajectoire de deux femmes. Avant l'israélienne Almog, dans le journal de 9h, voici l'histoire d'Oum Ahmad, la palestinienne.
Oum Ahmad sort un objet, précieusement conservé dans une poche zippée de son sac.
Voici la clé de ma maison, à Gaza.
Le symbole est fort. Depuis 1948, beaucoup de familles de Gaza possèdent encore la clé d'une maison abandonnée aux Israéliens, désormais souverains, dans ce qui était à l'époque la Palestine mandataire.
Génération après génération, on garde toujours la clé. La clé veut dire le droit de retour. On va revenir.
La maison d'Oum Ahmad est à Betlaïa, c'est au nord de l'enclave. Elle l'a abandonnée dans les premières heures du 7 octobre pour d'abord se réfugier dans la ville de Gaza.
Ma cousine, elle est morte avec son mari, ses enfants, sa belle-mère, sa belle-famille, tous.
La mort est partout, il n'y a plus rien à manger. Oum Ahmad a la nationalité égyptienne et au bout de 2 mois, elle décide de partir pour s'installer chez une amie dans la grande banlieue du Caire.
Les enfants, quand on est rentré, quand on est arrivé chez cette amie... Ah maman, il n'y a pas de coupure de l'électricité. Ah maman, il y a toujours de l'eau. Mais d'un côté, je suis tout le temps en contact avec Gaza. Quand est-ce qu'on va revenir ? J'arrive pas à y croire que je ne vais pas rentrer chez moi.
Aujourd'hui, Oum Ahmad loue une maison et elle accueille régulièrement d'autres réfugiés de Gaza qui, comme elle, espèrent un jour pouvoir retourner chez eux.
Un reportage à Jérusalem de Thibault Lefebvre. Hier soir, des dizaines de milliers d'Israéliens ont manifesté partout dans le pays pour réclamer la démission de Benjamin Netanyahou et le retour des otages. La rupture est consommée entre l'Équateur et le Mexique. Vendredi, des policiers équatoriens ont fait irruption dans l'ambassade mexicaine à Quito pour y arrêter l'ancien vice-président qui s'y était réfugié. Intrusion condamnée notamment par les Nations Unies. Les relations diplomatiques entre les deux pays sont rompus. L'ambassadrice du Mexique va quitter l'Équateur aujourd'hui. En France, les annonces de Gabriel Attal hier soir pour garantir l'accès aux soins peinent à convaincre les professionnels de santé. Une sanction de 5 euros en cas de rendez-vous médical non honoré, l'augmentation du nombre d'étudiants en médecine ou encore un accès direct aux médecins spécialistes suffisant. Pas du tout, estime le docteur Arnaud Chiche, anesthésiste réanimateur et président du collectif Santé en danger.
C'est de la communication, vous savez le fin mot du problème, c'est qu'on manque de médecins. On manque de médecins en France. On pourrait organiser la pénurie de médecins 1000 fois, à la fin vous aurez toujours une pénurie d'accès aux soins. Gabriel Attal, je suis très déçu, hein. Je suis très déçu par ces annonces. J'attendais une loi de programmation santé. On a besoin d'un plan global. Il faut qu'on parle des urgences, il faut qu'on parle du manque d'infirmières dans les hôpitaux, il faut qu'on parle des médecins généralistes enlisés dans leur négo. Et vous voyez bien que là, on répond ponctuellement avec un bouquet d'annonces. Gabriel Attal a parlé de santé. Cependant, on est un peu dans la prolongation de ce qu'il nous avait dit au mois de janvier. Je suis très peu convaincu. Il faudrait qu'il s'entoure de professionnels experts qui lui montrent quels sont les impératifs aujourd'hui, les grandes urgences.
Le docteur Arnaud Chiche avec Thomas Séchier. À Grenoble, le suspect interpellé et placé en garde à vue hier dans l'enquête sur une série d'agressions sexuelles et de viols va être déféré devant un juge d'instruction. Une conférence de presse du procureur est prévue dans la journée. Et puis dans l'enquête sur la mort d'un collégien de 15 ans à Viry-Châtillon, les gardes à vue des 5 personnes interpellées vendredi soir sont prolongées. Il s'agit d'une jeune fille de 15 ans et de 4 jeunes hommes âgés de 17 à 20 ans. D'une commémoration à l'autre, nous vous le disions au début de ce journal, Emmanuel Macron lance aujourd'hui les cérémonies du 80e anniversaire de la libération de la France. À midi, il sera sur le plateau des Glières en Haute-Savoie, au lieu de la Résistance. Puis dans l'après-midi, à la maison des enfants d'Izieux. C'est là que 44 enfants juifs réfugiés et leurs 7 éducateurs ont été arrêtés le 6 avril 44, déportés à Auschwitz. Aucun enfant n'a survécu. Roger Volman a vécu 3 semaines dans cette maison. maison d'Izieux et il ne cesse de raconter et de témoigner.
80 ans après, c'est pas beaucoup 80 ans, c'était hier. La transmission de la mémoire, qui peut la transmettre mieux que les témoins? Souvent on m'a demandé, on me dit, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous continuez? Pourquoi vous témoignez? Il faut tourner la page. Alors quelle page? Il n'y a que ceux qui sont morts qui peuvent tourner la page, et puis ils le feront jamais, ma foi. Moi je tournerai pas la page, j'oublie pas, je témoignerai, je transmettrai. Je vais dans 15 jours avec mes petits-enfants à Auschwitz. Ils l'ont demandé. Je crois que je suis en train de réussir ce que quelquefois on appelle le devoir de mémoire.
Voilà Roger Wollmann, ancien enfant d'Izieux, un témoignage recueilli par France Bleu Isère.
Elio Gabal, c'est le nom d'une pièce de théâtre inédite de Jean Genet et qui refait surface.
Oui, on la croyait perdue, elle vient d'être publiée par Gallimard avec Mademoiselle, un autre texte inédit de l'auteur des Paravents. La pièce Elio Gabal, du nom d'un empereur romain, Jean Genet l'avait écrite en prison, Ilana Mourioussef.
En 1942, Jean Genet est incarcéré à Fresnes. Il a alors 31 ans. C'est pendant ce séjour en prison qu'il commence à écrire son premier roman, Notre-Dame des Fleurs, mais aussi cette pièce, Elio Gabal. Alban Cerisier, éditeur chez Gallimard.
On en connaissait l'existence puisque Genet en avait parlé. Jean Marais, qui devait jouer dans cette pièce, en avait également parlé dans certaines déclarations. Et par un grand miracle, d'une certaine façon, ce manuscrit a été retrouvé par un professeur de français aux États-Unis, à la bibliothèque de Harvard. Il était là depuis 1983 quand même. Ce manuscrit, c'est le secrétaire de Jean Cocteau qui l'avait et qui l'a vendu, en l'occurrence.
Genet prend appui sur un personnage historique, Elio Gabal, un empereur romain connu pour son comportement de débauché. Et la pièce est tout sauf un brouillon.
C'est une pièce très tendue vers sa signification qui est qu'est-ce qu'une sainteté inversée, c'est-à-dire je me débarrasse en tant qu'empereur semi-divin de ma divinité pour ne rester qu'avec que ma part d'humain. Et ça se suppose une pratique très très extrême du vice. C'est ce que fait ce jeune prince, Elio Gabal, dont on va assister finalement dans la pièce au dernier jour.
Genet voulait que sa pièce soit jouée. Les éditions Gallimard l'ont donné à lire à plusieurs metteurs en scène qui, on ne saura pas, pour l'instant, la discrétion est de mise.
Et en attendant la version scénique, le texte de la pièce Elio Gabal est donc paru chez Gallimard.
8h12 sur Inter, le journal des sports.
Avec Adèle Belloumri ce matin. Bonjour Adèle.
Bonjour.
C'est la 47e édition du Marathon de Paris, la course à pied la plus populaire de France.
54 000 inscrits, autant de personnes qui vont courir des Champs-Élysées au bois de Vincennes et Boulogne pour parcourir ces fameux 42 km 195. Des athlètes de haut niveau évidemment, mais aussi des coureurs confirmés ou novices. Pour France Inter, on retrouve notre journaliste Valentin Winato en direct des Champs-Élysées. Bonjour Valentin.
Bonjour.
Alors ça y est, le Marathon de Paris démarre.
Oui, départ donné il y a une dizaine de minutes, tout juste pour les femmes les plus rapides. Les hommes vont suivre d'ici deux minutes. Alors ce départ concerne les élites, comme on dit. Les trois derniers vainqueurs du Marathon de Paris sont d'ailleurs sur la ligne de départ avec ces élites. Certains avec qui j'ai pu discuter et qui ont commencé l'échauffement dès 6h30 hein, sur les pavés des Champs-Élysées, au milieu des sorties de bois de nuit. Paysage assez curieux, je vous le cache pas. Alors eux visent un temps sous les 2h30, 2h40 quand même. Sachant que le record du monde est de 2h11 pour les hommes, 2h11 pour les femmes, pardon, 2h35 secondes pour les hommes. Je vous annonce tout de suite, Adèle, que je ne les suivrai pas pour un manque de courage et de capacité, tout simplement. Là, je vous ai parlé des plus rapides, mais pour les autres départs, les autres sas, comme on dit ici, ce sont des coureurs qui ont pour objectif 3h, 4h ou tout simplement de terminer ce parcours qui traverse Paris d'ouest en est et inversement.
Merci.
Beaucoup ont un dossard d'aura. Doré, pardon, ce qui veut dire que c'est leur tout premier marathon.
Merci Valentin Winato avec Benjamin Thiot à la technique. Du football avec la 28e journée de Ligue 1. Match nul, un but partout hier soir entre le Paris Saint-Germain et Clermont, dernier du classement. Le PSG reste tout de même leader du championnat, mais le PSG cale avant son quart de finale aller de la Ligue des Champions face à Barcelone.
Et en cyclisme, bien sûr, l'enfer du Nord aujourd'hui sur les pavés du Paris-Roubaix.
Après les femmes hier, place aux hommes aujourd'hui, 121e édition du Paris-Roubaix avec un grand favori, Mathieu Van Der Poel. Victorieux déjà l'an passé, l'enfer du Nord bien ancré dans les têtes des coureurs, encore marqués par les récentes chutes qui ont décimé le peloton, Fanny Lechevestrier.
Un peloton traumatisé, comme l'a décrit cette semaine l'organisateur de la course, avec des images plein la tête des violentes chutes de Wout van Aert il y a 10 jours et de Jonas Vingegaard jeudi. Concède Adrien Petit, mais aussi la star Mathieu Van Der Poel.
Ça fait froid dans le dos pour tout le monde.
Bah oui, c'est jamais bien de voir les autres tomber.
Et c'est pour tenter de juguler cette peur que l'entrée sur la mythique trouée l'arrivée d'Arombert a été modifiée en dernière minute avec cette chicane qui fait en parler pour faire ralentir les coureurs, reconnaît le directeur de Paris-Roubaix, Thierry Gouvenou.
Je l'ai fait 12 fois en tant que professionnel. 12 fois, je suis arrivé là en me disant comment je vais en ressortir. Quelque part, on joue un peu à la roulette russe. Le pavé secoue énormément. Donc voilà, il faut vraiment débrancher le cerveau pour pouvoir rentrer dans la trouée d'Arombert à fond.
Car sur Paris-Roubaix, la chute fait partie intégrante de la course. Il faut l'accepter avant de s'y lancer. Et paradoxalement, c'est aussi ce qui attire tous les novices comme Rémi Cavagna qui s'apprête à découvrir l'enfer du Nord.
C'est vrai que voilà, on s'y compare et il y a de grandes chances de au moins tomber une fois ou deux. Enfin, c'est une chance de guerrier. C'est d'un coup un virage avec des pavés boueux. Voilà, il y a des coureurs qui m'ont dit on arrive, on ferme les yeux parce qu'on sait que soit ça passe, soit ça casse.
Et quand cela passe, l'enfer se transforme alors en un paradis auquel seuls les plus grands champions ont accès.
175 coureurs se lanceront à 11h25 à l'assaut de ce Paris-Roubaix arrivé prévu aux alentours de 17h30.
Et on rebranche le cerveau, on rouvre les yeux et on guettera l'entrée de la trouée d'Arambert. Merci Adèle Belloumri.
C'était le journal de Corinne Audouin, il est 8h16.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques. Devis et rendez-vous en ligne, tout simplement, sur euromaster.fr.
Céline Dacosta, il faut remettre son ciré aujourd'hui, mais ce conseil ne concerne pas tout le monde.
Mais non, on a déjà quelques averses ce matin du Poitou-Charentes au Nord-Pas-de-Calais en passant par la région centre et l'Île-de-France. Cet axe pluvieux, il va rester sensiblement le même cet après-midi, il va juste s'étendre un petit peu vers les Pays de la Loire, la Vendée et puis plus au nord vers la Champagne-Ardenne. Vous l'avez compris, hein, sur ces régions, l'ambiance sera grise et humide toute la journée. De part et d'autre, ce sera plus calme, plus sec, avec des éclaircies, des nuages et du vent. Ça, c'est près de la Manche, de la Bretagne à la Haute-Normandie. Un soleil également toute la journée pour la Corse, après dissipation de quelques grisailles côtières sur les caps ce matin. Plus au sud et à l'est, le soleil va rester bien voilé. Un voile qui sera même un petit peu plus épais de l'Aquitaine à la Lorraine.
Et la douceur est toujours au rendez-vous, même si ça baisse par endroits.
Oui, plus que 15 à 18 degrés sur un large quart nord-ouest cet après-midi. Pour le sud et le flanc est, ça va rester chaud avec une moyenne de 21 à 28. Et puis c'est déjà très doux ce matin, 10 à 18 degrés d'ouest en est.
Merci Céline Dacosta, merci à vous d'écouter Inter. Il est 8h17, géopolitique.